Aujourd'hui, avec vous, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous concerne énormément, celui des étrangers, de l'accueil des immigrés auxquels nous devons faire face aujourd'hui, et particulièrement d'un événement qui a engendré énormément de débats et de remises en question en Allemagne, ce qui s'est passé il y a exactement un mois, jour pour jour, lors de la nuit du Saint-Sylvestre à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne. Donc, durant cette nuit, il y a eu beaucoup d'agressions, on l'a découvert après, d'agressions sexuelles à caractère sexuel envers les femmes qui ont été, a priori, essentiellement faites par des requérants d'asile. Alors, beaucoup de choses ne sont pas encore réglées sur cette affaire, beaucoup de choses restent à régler, mais pourtant, le débat est là, le débat s'est enflammé en Allemagne sur la question des limites de l'accueil. Qu'est-ce que veut dire vraiment accueillir ? Parce que celui qu'on a accueilli comme ça, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, que ça pose des problèmes pour vivre ensemble. Et c'est peut-être un petit peu un symbole de notre monde aujourd'hui en crise, en rivalité. Une blogueuse faisait remarquer que ces scènes de rapes, de viols, alors il y a jusqu'à aujourd'hui 876 réclamations auprès de la police, je crois, des poses de plainte, pour à peu près 300 effets à caractère sexuel. Et toutes ces scènes un petit peu de rapes en groupe ressemblent à ce qu'on vivait autrefois dans les scènes de guerre, au moment des guerres du Moyen-Âge ou même bien après, où les vainqueurs s'autorisaient finalement à souiller une ville après leur victoire. Et à travers ça, elle met certains mots en disant « Après les attentats du 13 novembre à Paris, nous avons entendu sur toutes les bouches dire que nous sommes en guerre. » Et puis peut-être qu'il y a là les traces aussi de cette guerre qui ne dit pas son nom, de conflits qui sont bien plus vivants et bien plus violents qu'on l'imagine parfois. Que dire face à ça? Que dire face à cette violence? Est-ce qu'on doit simplement fermer nos frontières? Est-ce qu'on doit faire autre chose? Je pense qu'il y a deux enjeux qui se relèvent de cette situation. Le premier enjeu, c'est comment accueillir. Comment accueillir la détresse? Parce qu'avant tout, ces personnes sont des personnes qui ont tout quitté. Si elles ont tout quitté, si elles ont laissé derrière elles toutes ces choses, c'est vraiment qu'il y avait dans leur vie un vrai danger, une vraie souffrance, qu'elles étaient victimes. Mais ça pose aussi une deuxième question qu'il faut absolument aborder parce qu'elle est en filigrane partout et si on ne l'aborde pas, on n'aborde pas les vraies inquiétudes. Cette question, c'est à quoi ressemblera l'Europe de demain si elle accueille des millions d'immigrés aujourd'hui? Alors, déjà cette question, comment accueillir? Accueillir les blessés de la vie, ça, je crois que vous partagerez tous, c'est pas une option, c'est directement dans le message chrétien. Et si on pouvait donner qu'une seule phrase, ça serait cette parabole de Jésus qui dit « Toutes les fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères. » Et cela, ça veut dire accueillir, donner à manger, aller visiter quand ils étaient malades. Toutefois, toutes les fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus était avec les rejetés, il était avec les opprimés, il a accueilli les blessés de ce monde. C'est là que s'exprime l'amour et je crois que ça ne sert à rien de vouloir prétendre défendre une religion d'amour si nous ne sommes pas capables d'accueillir. Mais comment ? Comment accueillir ? Une plume libre d'Algérie, Kamel Daoud, disait que l'Europe a énormément péché ces dernières années par naïveté. Par naïveté parce qu'elle a pensé qu'accueillir voulait simplement dire prendre soin du corps. Prendre soin du corps, sauver le corps. Sauf que ceux qui ont tout quitté, leur chez eux, leur pays, leur identité, il leur reste quoi? Il leur reste seulement aujourd'hui leur culture, leur âme. Et c'est ça qui aujourd'hui font leur identité. C'est ça qu'ils ne laisseront pas tomber parce que c'est la seule chose qui leur reste. Et cette identité a souvent été construite dans une rivalité avec l'Occident, dans un mépris parfois des femmes, il le dit lui-même, et dans l'idée que la femme libre, symbole de l'Occident, qui est pour nous probablement une fierté, est pour eux le symbole de la décadence de l'Occident, et qu'à partir de là, elle n'a pas besoin d'être respectée. Alors oui, je crois, accueillir, c'est plus que accueillir simplement le corps. C'est plus que accueillir les gens, les mettre dans des camps, ce qu'on fait parfois même pas si bien, et leur offrir une vie au moins matérielle. Non, il faut accueillir plus que ça. Accueillir la culture, accueillir les valeurs, la famille, le langage, le système de pensée. Penser à toutes ces choses avec lesquelles viennent les migrants pour lui proposer un accueil vraiment de toute sa personne. C'est là peut-être prendre soin de l'identité de la personne et pas que de son corps. Gardons cette idée en tête. L'autre question qui alimente un peu les fantasmes, c'est à quoi ressemblera l'Europe de demain? Alors pour cela, j'aimerais parcourir avec vous l'histoire du peuple hébreu. C'est intéressant parce que le peuple hébreu est un petit royaume qui se construit dans l'adversité, entouré de grands empires, entouré de plein de royaumes et de puissances étrangères avec lesquelles il va devoir négocier sans cesse son existence. Sauf que le petit peuple hébreu s'est construit en tant qu'étranger. Hybride, dans la langue sémitique, veut même dire habitant au-delà des frontières, un nom qu'on leur a donné, qu'ils se sont appropriés. Et cette identité de tu étais étranger, elle reste. Elle est gravée dans leur loi. Parce que c'est comme étrangers qu'ils ont trouvé leur identité en Dieu. À un moment où ils n'avaient pas de terre pour trouver leur identité. C'est comme étrangers qu'ils ont lié alliance avec Dieu. Alors certes, il y avait la promesse d'une terre promise et la construction d'Israël s'est faite dans ce dilemme. Vous l'avez entendu dans le texte que nous avons lu, il est dit: si un émigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un indigène, comme un autochtone, comme l'un d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. Il y a là une vraie loi qui protège l'étranger. Parce que tu as été étranger, protège l'étranger. Mais il y a aussi tout un défi qui fait que le peuple d'Israël n'est pas très apte à se mélanger. Au début, lors de la construction, lorsque Israël s'installe, toute l'histoire, à chaque fois qu'elle se bâtit, est aussi une histoire où parfois elle s'éloigne de Dieu. Le temple de Dieu était une tente. David propose d'en faire un temple. Mais un temple en dur. Mais Dieu lui dit non, moi j'étais heureux sous ma tente, c'est moi qui te construirai une maison. C'est ça qui est important, recevoir la maison. Et par là, ça veut dire la famille que Dieu offre à David. Le temple se fait pourtant. Après David vient Salomon. Salomon qui était réputé pour toute sa sagesse. On venait de très loin pour l'écouter. Mais Salomon, en devenant très sage, est devenu aussi très célèbre, très riche, et a eu un grand harem, beaucoup de concubines. Et pour satisfaire ses concubines, a laissé entrer en Israël aussi leur culte avec leur Dieu. Et ainsi est venue petit à petit l'idolâtrie qui est dénoncée dès les 10 commandements au tout début de la loi de Dieu. L'idolâtrie est venue au moment de l'accueil de ce mélange avec l'étranger. Et à travers tous les fils et descendants de Salomon, à travers l'exil et puis la restauration d'Israël, il y aura toujours cette tension entre à la fois respecter, accueillir l'étranger qui est de passage chez toi, et à la fois ne te mélange pas, n'adapte pas ton culte, ne prends pas leur idole, parce que alors vous serez comme une épouse qui trompe son mari. C'est là par exemple une image qu'on a dans le livre de Jérémie qui dit: oui, tu es une vierge qui est allée se prostituer avec d'autres idoles, qui n'a pas été fidèle à ta première alliance. Qu'est-ce que nous devons en penser, nous, aujourd'hui, dans notre rapport à l'étranger? Eh bien déjà, notez que le peuple hébreu n'a pas tenu jusqu'au bout. Il a fini par être succombé. En 70, le temple est détruit, la ville de Jérusalem est mise à mal par Titus. Et à partir de là, commence dans l'histoire du peuple hébreu 2000 ans d'exil, 2000 ans où leur identité ne sera plus leur royaume, ne sera plus leur terre, mais sera seulement leur Dieu, leur alliance avec Dieu. Et je suis toujours étonné comment un peuple a pu tenir 2000 ans sans perdre son identité. Est-ce que c'est là un cas à part dans le monde? J'ai bien l'impression que oui, parce qu'ils ont mis leur identité non plus dans une terre, mais en Dieu. Qu'en est-il après, dans le Nouveau Testament? Que nous dit Jésus? Alors Jésus, lui, c'est un peu différent parce que tout ce qui était terrestre, avec lui, devient céleste. La terre promise, le royaume d'Israël, qui était le but de tout Israël, devient pour Jésus le royaume de Dieu, qui devient le but de tout chrétien. Un royaume de Dieu est évidemment déjà sur cette terre, et cette vie est faite pour construire ce royaume. Mais un royaume qui n'est pas de ce monde non plus. Le temple, il annonce qu'il sera détruit. Le nouveau temple, c'est son corps, qui est rebâti en 3 jours. La Jérusalem terrestre devient la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse. Le culte, il nous dit, méfiez-vous des apparences, ne faites pas des longues prières et prenez pas la première place dans les synagogues. Ce qui compte, c'est dans votre cœur. Enfermez-vous dans votre chambre, c'est là que ça compte. Non pas ce qui est apparent aux yeux des hommes, mais ce qui est apparent aux yeux de Dieu, votre alliance avec Dieu. La loi qui régit la vie sur terre devient la foi, notre espérance et notre confiance en Dieu. Même la Pâque, qui était la célébration de la libération du peuple juif, qui est libéré de l'esclavage, devient la célébration de la résurrection, où nous célébrons finalement notre aller vers cette terre promise, cette autre terre promise, le royaume de Dieu. Et alors, dans ce cas-là, évidemment, les richesses à conquérir ne sont plus celles de la terre, mais c'est bien les trésors du ciel, là où le voleur n'a pas de place. C'est ces richesses qui nous invitent à poursuivre là où est notre cœur, là aussi sont nos richesses. Alors l'homme, sur cette terre, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il ne devient plus un terrien, il devient un pèlerin. Un pèlerin qui traverse cette terre en essayant de bâtir comme il peut de la justice, de l'amour, qui essaye comme il peut d'aimer son prochain et de cultiver ses trésors qui vont au ciel. Nous sommes sur cette terre des pèlerins. Alors pour nous aujourd'hui, si nous cherchons dans la Bible un discours sécuritaire qui nous proposerait de fermer nos frontières, on l'entend bien, ça va être difficile de le trouver. Non, vraiment, ce monde bouge, ce monde évolue, les empires grandissent, les empires tombent, les choses changent. Ce qui compte pour Jésus, c'est notre destination, c'est le royaume de Dieu. Et le texte que nous avons lu parle un peu de ça. Il parle de ce défi de la toute première église, de cette première église qui a dû voir se mélanger les juifs et les non-juifs, les personnes de toutes les cultures, une église qui s'est construite bien au-delà des premières identités nationales, mais au contraire qui s'est construite comme une suridentité, quelque chose qui venait par-dessus tout, une identité en Christ. Cette identité, elle commence d'abord en disant « Rejetez la colère, l'animosité, la malfaisance, la calomnie, le mensonge, les paroles choquantes, toutes ces choses qui font qu'il y a des séparations entre les âmes, qui font que nous ne pouvons pas bien nous entendre les uns les autres. » Tout cela parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons revêtu l'homme nouveau. Donc la lettre continue en disant « Vous avez revêtu le nouveau » qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes appelés à nous renouveler pour sans cesse connaître celui qui nous a créé, le Christ. Celui qui nous a créé de nouveau, le Christ. Et en tant que création nouvelle, nous sommes faits à l'image de le Christ. C'est là notre nouvelle identité que nous dit Paul. Nous sommes à l'image du Christ en tant qu'Église. Nous sommes appelés à revêtir cette nouvelle identité qui est plus importante que les identités suisses ou françaises ou européennes ou syriennes ou marocaines ou albanaises ou érythréennes. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Voilà notre identité. Ce n'est pas la terre, pas la nationalité, pas le métier, pas les origines, c'est le Christ, celui qui fait de nous un homme nouveau. Et la lettre continue en disant « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs. Cette paix entre nous, cette paix en un seul cœur. Cette Église qui est capable de voir au-delà des nationalités, au-delà des différences, qui sait que notre citoyenneté est autre, notre identité est autre. Et là, ça rejoint une grande idée qui traverse toute la Bible, cette idée de notre identité, de notre citoyenneté. Notre citoyenneté est au ciel. Nous sommes héritiers, co-héritiers du royaume de Dieu. C'est une parole de Paul qui dit, voilà, c'est Jésus l'héritier, et en devenant son frère, nous devions, non, l'héritier avec lui. Nous sommes donc co-héritiers du royaume de Dieu, et ça devient notre identité, citoyen des cieux. Alors, je trouve qu'il y a là une réponse sur comment accueillir aujourd'hui les étrangers. Si nous cherchions un discours sécuritaire, nous l'avons entendu, il y a peu de place pour ça. L'Europe chrétienne n'est pas le projet de Dieu. Par contre, son projet, c'est le royaume de Dieu qui commence ici. C'est la justice, la paix et l'amour. L'Évangile ne nous invite pas à défendre une terre, mais nous invite à défendre une justice sur cette terre et partager l'amour de Dieu en actes, mais aussi en paroles. Alors, oui, je le crois. L'Europe ne sera plus jamais l'Europe chrétienne comme elle l'était il y a encore 100 ans. Elle sera une Europe multiculturelle. Oui, je le crois aussi, l'Évangile est la vérité que Dieu offre à ce monde. Et notre mission aujourd'hui est d'accueillir les immigrants dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Notre mission, c'est de leur donner cette identité qui n'appartient à personne, celle d'être des hommes nouveaux, des citoyens du ciel, des enfants de Dieu. Cela va par la connaissance de Jésus. Ne partageons pas que nos terres, ne nous soucions pas que du corps, parce qu'alors il y aura toujours des rivalités, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des guerres. Mais partageons aussi et surtout la bonne nouvelle. C'est là, je crois, ce que veut dire accueillir pleinement un homme. Ne partageons pas seulement notre citoyenneté suisse ou européenne, partageons aussi notre citoyenneté du royaume de Dieu. Et cela, ça s'appelle évangéliser. Un mot qui parfois nous fait peur. Parce que le monde nous a souvent dit, pour que tout le monde vive bien ensemble, chacun garde ses croyances. Respectons-nous et vivons côte à côte ainsi. Mais aujourd'hui, nous voyons cette formule ne marche pas. Plus vraiment, les tensions sont réelles, sont vraiment là. Et pour répondre à ces tensions, il me semble que nous devons partager l'amour. Nous ne devons plus avoir peur de ce mot évangéliser. Et comprenons bien qu'aujourd'hui, nous avons besoin de partager pleinement, sans rien retenir pour nous, et surtout pas retenir l'Évangile. C'est cela qui fera vaincre les peurs et les tensions, comme celles qui se sont manifestées à Cologne. Lorsque nous reconnaîtrons, au-delà de toutes nos différences, de tous nos systèmes de pensée, de toutes nos cultures, nos histoires, nos métiers, que nous sommes les citoyens d'un même royaume, les membres d'un même corps, que nous recevrons notre identité d'une même source. Amen.